Louise Goupil, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé le 16 mai dernier un recueil de poésie, Louise Goupil. C'était votre premier recueil de poésie, c'est pas votre première publication toutefois. Ce recueil est intitulé « Coquillages, poésie de mes âges ». Déjà, le titre est presque une poésie.
Merci.
C'est une belle image que de parler de la poésie de mes âges. Oui. Mais avant de parler du recueil, j'aimerais ça qu'on fasse connaissance davantage avec vous, Louise Goupil. Vous avez mené une carrière presque exclusivement orientée vers la pédagogie.
L'éducation.
Vous n'avez
pas
toujours fait la même chose, mais c'est chapeauté par la pédagogie. D'abord, vous avez été professeur de littérature ou de français.
De français au secondaire.
Au secondaire. À quel niveau vous avez surtout enseigné?
J'ai surtout enseigné en secondaire 4. Au secondaire, et j'ai adoré cette année parce qu'on faisait à la fois du théâtre, on parlait de la nouvelle. Alors, c'était très intéressant parce qu'au début de l'année, les jeunes qui arrivaient, on sentait qu'ils étaient encore avec les idées des autres. Et au fur et à mesure que l'année avançait, par exemple, après les fêtes, quand ils revenaient, on voyait que c'était beaucoup plus leurs idées, leur propre façon.
La personnalité se développait.
Oui, c'était formidable.
Vous êtes un peu de la génération des professeurs de français qui ont connu à peu près toutes les réformes et tous les bouleversements et tous les changements de programme. Vous étiez là au programme cadre et comme vous étiez là...
au programme cadre, mais moi, j'ai cessé d'enseigner en 1980. Donc, il y a plusieurs réformes que je n'ai pas fait.
Que vous n'avez pas connu. Mais vous en avez quand même connu quelques-unes.
Oui.
Vous cessez en 1980 pour vous retrouver au ministère de l'Éducation.
Oui, en tant qu'agent de développement pédagogique.
Oui, on reste toujours dans le domaine de la pédagogie. Oui. C'est un choix que vous faites de quitter l'enseignement ou si c'est un poste qui s'ouvre, un prêt de service, vous allez travailler là et finalement vous allez y rester?
C'est un prêt de service, mais comme souvent dans la vie, c'est arrivé à la suite de cette année. J'ai eu une année très difficile où on m'avait placée dans un contexte différent avec des élèves en difficulté, en très grande difficulté. Et comme je n'avais pas de formation en adaptation scolaire et tout ça, donc j'ai décidé d'essayer de me trouver autre chose.
Quitter un peu les adolescents pour travailler dans un monde plus d'adulte.
Oui, mais pour les adolescents aussi.
Oui, oui.
Alors, donc j'ai fait au ministère, j'ai travaillé sur le matériel didactique. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans sur le projet « Lire et aimer lire au secondaire », qui était à la fois une recension... de 850 titres de livres de toutes catégories en littérature pour adapter pour les jeunes secondaires, c'est-à-dire qui pouvaient s'adresser aux jeunes secondaires, et un autre fascicule qui proposait une centaine de projets pédagogiques en fonction de la littérature. Alors, c'était vraiment intéressant et on l'a fait avec des enseignants.
Quand vous êtes arrivé dans la grande tour de l'éducation, justement, au ministère, est-ce que vous arriviez avec une expérience qu'on va appeler une expérience de terrain et vous pouviez l'apporter? Est-ce que vous êtes confronté à des théoriciens qui planaient un peu au-dessus du terrain et que vous avez dû faire atterrir?
Pas vraiment, non.
Non.
Je dois dire que les personnes que j'ai côtoyées et avec qui j'ai travaillé, certaines étaient, disons, depuis plus longtemps dans le milieu, mais c'était une époque où on faisait beaucoup appel aux enseignants. Alors, ma patronne, par exemple, venait aussi de l'enseignement. Et j'ai travaillé pour ce projet-là, entre autres, avec 70 enseignants. On consultait énormément les enseignants à ce moment-là.
À ce moment-là.
J'ai travaillé de 1980 à 1988 au ministère.
Et en 1988, vous vous en allez au Musée de la Civilisation?
Oui.
C'est presque la période de l'inauguration, Musée de la Civilisation.
Oui, c'était pas tout à fait un an avant.
Vous êtes là presque dans les débuts.
Oui.
Et toujours avec la préoccupation de
l'éducation.
L'éducation et de la pédagogie.
Mm-hmm.
Vous montez des programmes pour aider les enfants ou les jeunes ou les gens qui viennent au musée pour comprendre les expositions.
À bien comprendre les expositions et le contexte et tout ça. Donc, ça allait des jeunes, même on recevait des jeunes des garderies, donc de 5 ans en gros, là, de la maternelle jusqu'à l'université, et évidemment le grand public. Alors, il y avait, on travaillait aussi avec les chargés de projets d'exposition, toujours dans l'optique de l'éducation. Alors, on a fait aussi des expositions interactives, si on veut, où les jeunes pouvaient toucher, manipuler, etc. Mm-hmm. Donc, en rapport avec certaines expositions. C'était passionnant aussi parce qu'on a fait aussi des publications au musée, la collection Les Premières Nations.
Oui, qu'est-ce que c'est que la collection des Premières Nations? C'est par le musée que vous avez fait cette collection-là?
Oui, j'étais au musée, mais comme je connaissais le secrétariat aux affaires autochtones au ministère d'Éducation, donc, j'ai rencontré une personne là-bas et on a fait un projet commun. Musée de la civilisation, ministère d'éducation, secrétariat aux affaires autochtones. Un projet pour montrer la vie actuelle des autochtones. Parce que souvent, on parle évidemment de leur vie passée, mais la vie actuelle, c'est très peu vraiment connu. Alors,
peu documenté, mais peut-être un peu gênant à montrer dans certains cas.
Mais c'est-à-dire qu'on la connaît par les journaux lorsqu'il y a
des drames,
des suicides, des drames, etc. Alors que ces communes, il y a 55 communautés autochtones et 11 nations. Donc, pendant plusieurs années, évidemment, ben, on travaillait avec les autochtones, on engageait une recherchiste autochtone ou un recherchiste autochtone pour nous aider. On engageait quelqu'un qui écrivait les textes et ensuite avec des photos. Et on faisait ensuite la collection. Ouais. Alors, il en manque deux. Il reste les Malécites.
Vous n'avez pas eu le temps ou les subventions étaient coupées?
Je suis partie avant et je pense que là, c'était plus difficile de continuer pour les deux qui restaient. Là.
C'est une collection qui visait les non-autochtones. On parlait des autochtones.
Qui visait les non-autochtones et en particulier les jeunes des écoles primaires. Mais, entre autres, certaines personnes me disaient c'est très intéressant pour les gens qui vont travailler, par exemple, chez les Inuits dans le Nord, parce que ça leur donnait déjà de lire ce fascicule-là, ça leur donnait une idée un peu de ce qui les attendait.
Pendant que vous occupiez toutes ces fonctions, que vous aviez ces préoccupations pédagogiques et de publication, vous écriviez de la poésie.
Oui, à titre personnel.
Est-ce qu'il y a eu des phases de plus productives, des phases moins productives parce que le travail était...
Oui, effectivement. Dans le recueil, coquillages, disons jusqu'à 28, 32 ans, il y a pas mal de... À l'adolescence, j'ai beaucoup écrit, comme plusieurs d'entre nous.
Aviez-vous un journal intime?
Oui, c'est à partir de ce journal intime que j'ai retrouvé tous ces poèmes. Et ensuite, par la suite, évidemment, avec le professionnel qui me prenait beaucoup de temps, c'était beaucoup moins important comme production, mais j'ai continué quand même jusqu'à la cinquantaine.
C'est intéressant, Hélène Goupé, Louise, je suis allé chercher Hélène. C'est intéressant que vous retourniez à ces ouvrages d'adolescence, même de jeunesse, d'enfance, que vous y trouviez des textes et que vous n'ayez pas eu envie de les jeter, parce qu'on a souvent cette espèce de mépris plus tard par rapport à ce qu'on a fait à cette époque-là et on s'en débarrasse pour que personne mette la main là-dessus, alors que vous les avez gardés, récupérés.
Oui. Je dois dire que j'ai dû passer par... j'ai été inquiète de le faire, mais je voulais... Parce que en les relisant, surtout les premiers, là, de 13 à 15 ans ou dans l'adolescence, jusqu'à 18, 19 ans, en les relisant, j'ai été un peu surprise, puisque ça faisait longtemps que je les avais écrits, et en même temps émue, parce que je pensais à mes petits-enfants qui, bientôt, dans quelques années, vont avoir cet âge-là, vont passer par l'adolescence. Et pour moi, ça a été une période à la fois difficile et un peu plus tard vraiment formidable. Donc, je me dis, tous ces états d'âme, toutes ces émotions par lesquelles on passe à l'adolescence et qui sont si fortes, pour moi, ça a été un profit de pouvoir écrire ça. Et je me suis dit, s'il y a des jeunes qui le lisent ou des plus vieux, peu importe, ça peut donner envie d'écrire aussi.
C'est encore la préoccupation de la pédagogue.
Toujours.
Tout ce qu'on fait devrait servir, profiter, inciter.
C'est vrai.
Mais vous parlez justement de cette phase adolescente où on le voit bien, les problèmes sont regroupés en trois étapes, dont la première partie s'intitule de la difficulté de vivre.
Oui.
Adolescence difficile?
Difficile dans le sens que je souffrais de solitude. Je n'avais pas... j'étais en campagne, donc et j'étais la dernière chez moi, avec peu de voisins, vraiment à la campagne à l'époque. Et donc, je voyageais plus tard, dans ces âges-là, je voyageais en autobus, mais je n'avais pas de contact avec les gens. J'étais éloignée des gens de l'école, donc je n'avais pas d'amis. Et je me sentais très seule. Et je l'ai vécu très, très fortement, cette solitude. Alors...
La deuxième partie de cette phase adolescente s'intitule « Des jeux ».
Oui, en fait, c'est pas vraiment des parties, c'est des... J'ai regroupé les poèmes en thèmes, ouais, en sous-thèmes, bon,
d'accord,
si on
comme
veut.
Une sorte de thématique.
Ouais.
Et on voit, par rapport à la première partie, si on veut, on voit beaucoup se modifier l'écriture dans cette phase-là. Et je voudrais vous demander quelles étaient vos influences. J'imagine que si vous écriviez de la poésie, vous en lisiez peut-être, vous aviez des auteurs,
oui, oui,
et qui vous marquaient et qui vous inspiraient à écrire vous-même.
Oui, c'est ça. Je dirais qu'à partir, moi j'avais 17 ans à l'époque, à partir de, c'était en 65, 66, et nous avions une enseignante à cette époque-là qui nous a toutes marquées cette année-là, parce qu'elle nous ouvrait vraiment à la grande littérature, et même la peinture, la sculpture. Alors, je suis plongée là-dedans avec ravissement. Et j'avais déjà commencé à lire, puisque j'écrivais déjà un peu des poèmes, mais Anne Hébert, Saint-Denis Garneau, ensuite Gaston Miron, Éluard, Apollinaire, enfin, tous les gens de...
Et vous aviez la préoccupation d'essayer parfois d'imiter leur style pour vous donner l'inspiration de prendre une formule?
Non, pas vraiment, non. Par exemple. Je m'en sentais pas capable, je suppose. Mais non, c'était plus... En fait, c'était beaucoup un moyen d'expression pour moi. Même si je faisais des jeux à l'occasion avec les mots, c'était, comme je dis un peu dans l'introduction, pour créer du bonheur, ça me faisait du bien de faire ça. Ça me créait de la joie.
La troisième section, toujours dans l'adolescence, c'est autour de l'amour.
Oui.
Et là, je pense que c'est les découvertes et avec les premières peines d'amour, les premières déceptions, tout y passe aussi dans cette partie-là.
C'est peut-être surtout aussi l'appel à l'amour, le désir d'amour, plus que la concrétisation.
L'amour de l'amour.
Oui, exactement.
Oui. Est-ce que vous avez, en retrouvant, au moment où vous avez projet de faire coquillage et que vous retrouvez ce matériau-là que vous aviez écrit, avez-vous eu le respect de le garder tel quel? Si vous avez envie de faire des petites touches avec l'expérience venue?
J'ai vraiment voulu les garder tel quel. J'ai seulement ajouté des titres, parce que plusieurs n'avaient pas de titres. J'ai ajouté des titres pour que ce soit plus facile à lire dans le livre. Et c'est sûr que... Mais peut-être surtout sur les derniers poèmes que j'ai fait quelques corrections. Sur les premiers poèmes, je voulais pas retoucher à ça parce que c'est tellement...
C'était précieux d'avoir ce que ça avait été.
C'est ça.
Même si on est en poésie, on n'est pas dans le récit, là, il y a toujours une certaine forme de narration à l'intérieur de ça. Et j'ai eu quelques difficultés à suivre le narrateur. Parfois, vous êtes un narrateur « je », parfois vous êtes un narrateur « tu », parfois vous êtes un narrateur « il ».
Ouais.
Quand vous vous adressez à ma fille, par exemple, dans des poèmes, même des poèmes de jeunesse,
oui,
c'est un peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous parlait.
C'est-à-dire, c'est moi qui parle à ma sœur.
Ah, bon.
Ce poème-là, entre autres.
Parce que vous avez que deux garçons, j'ai dit bon, c'est pas, ça va pas ses fils, c'est écrit trop jeune. Est-ce que c'est la muse qui lui dit ma fille, tu feras ci, tu feras ça?
Ben c'était une façon de parler là, mais effectivement j'ai écrit ce poème-là pour ma sœur, mais elle l'a jamais lu. Elle l'a lu seulement à la publication. Et c'est ça, j'avais envie, je la voyais triste parfois, j'avais envie, c'est comme si je lui disais ben regarde la vie. C'est pas noir ou gris comme la ville, c'est aussi très beau et tout ça.
Et vous avez encore dans ce rapport des personnes, il y a un des poèmes qui est très très court. Je ne sais pas si je vais le retrouver facilement. Je pense bien d'avoir noté le bon. Il y a toujours. C'est un poème. On voit aussi l'évolution. Il y a des poèmes beaucoup plus élaborés. Et tout à coup, vous venez dans des formes très, très épurées. C'en est un qui est très épuré. Trois lignes pour le poème. Il y a toujours un quai quelque part. pour ceux qui partent comme pour celles qui restent. Mm-hmm. Mais quand on a le texte devant les yeux, celle qui reste est au singulier.
Oui.
Il y a ceux qui partent, ils sont nombreux, et celle qui reste, elle est...
Ouais.
Elle est une. C'est la solitude de l'enfance qui revient, ça, ou c'est. On voit le. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin là, de
ah,
une
oui,
chanson.
Oui. Eh bien, ça a été écrit quand je à la fin de mes études, avant de commencer à enseigner, on terminait au mois de mai. J'ai passé 4 mois à Percé. C'était la première fois que je partais vraiment ailleurs et avec une amie. Et j'ai passé ces 4 mois là-bas. Je suis tombée en amour avec la mer, mais j'étais triste aussi parce que je n'avais pas d'amoureux. Ma copine vivait une histoire d'amour. Moi, je n'avais pas d'amoureux. Et c'était... Enfin, j'étais comme dans une période d'attente et de...
Alors, elle est seule sur le quai.
Oui, c'est ça.
Tous les garçons et les filles de mon âge.
Exactement.
C'est pas même dans la rue de Pardieu, mais pas moi.
Oui.
Ça inaugure, enfin, c'est le début de la partie monde, là, où tout à coup, je pense, si vous parlez d'avoir quitté pour la Gaspésie, vous êtes allé ailleurs aussi après
oui,
ça.
Oui, c'était comme ouverture ouais. sur le monde, un peu, avec cette expérience-là ouais. qui a été très enrichissante.
Et c'est beaucoup dans cette partie-là où l'écriture se modifie, se transforme en une poésie très succincte, très brève,
ouais.
sur les différents lieux visités. Parfois, c'est une phrase, parfois, c'est un vers,
ouais.
pas beaucoup plus. Vous avez voyagé beaucoup et il y a des photos qui accompagnent. Est-ce que les photos, ce sont toutes des photos que vous avez prises au cours de votre vie?
Sont toutes des photos que nous avons prises, mon conjoint et moi, depuis que nous avons un appareil numérique, pour tout vous dire. Depuis 2004 ou 2005.
D'accord.
Oui.
Donc, n'accompagne pas nécessairement la création du poème. La photo
n'était
pas prise.
Pas du tout. Les photos sont récentes, bien que les poèmes soient...
Ouais, plus anciens. C'est ouais. une composition que vous faites ouais. par la suite. Pendant les voyages, vous écriviez sur le fait du voyage ou si c'est un souvenir quand vous parlez de cette ouverture sur le monde?
C'était pendant... vous parlez de quand je suis allée à Percé, c'était pendant
mais,
ces mois-là.
Mais partout ailleurs, à travers le monde, vous avez voyagé plus qu'à Percé, quand même?
Oui, j'ai voyagé plus, mais en voyage, non, je n'écrivais pas. J'étais trop occupée à goûter tout ce que je voyais et je prenais des notes sur le voyage, sur ce que je découvrais, mais je n'écrivais pas de poèmes, non. Non, c'est souvent après.
Si on continue le cheminement, la structure du livre, vous arrivez oui. après ce chapitre, bon, il y a eu l'enfance, l'adolescence, le monde, vous arrivez à un chapitre sur l'amour,
oui.
plus particulièrement, et là, il y a certains poèmes qui sont très nettement orientés vers la maternité ou la naissance ou l'arrivée des enfants.
Des enfants.
Encore là, j'imagine que un temps de grossesse, c'est peut-être un temps pour quelqu'un qui a l'âme un peu poète de se centrer sur soi et de pouvoir produire. Est-ce que ce sont des poèmes qui ont été écrits sur le fait ou des poèmes écrits sur le souvenir?
Si vous parlez des poèmes qui ont rapport avec la naissance de mes enfants ou l'attente de la naissance de mes enfants, oui, c'est vraiment dans les mois d'attente de cette naissance-là. Ou même, et ça, je le faisais dans mon journal beaucoup, beaucoup, de leur parler avant qu'ils n'arrivent. Ça, c'est vrai. Ce chapitre-là sur l'amour, en fait, c'est l'amour heureux, je dirais, la vie à deux, avec l'arrivée des enfants et tout ça. C'est l'amour dans son sens plein, oui.
Votre préoccupation d'écrivain ou poète, quand vous voulez parler de ces sujets-là, c'est de chercher des images qui vont dire... on n'est pas beaucoup dans la métaphore ou dans la comparaison, dans ces éléments-là. Vous êtes carrément sur un autre niveau d'écriture quand vous parlez de... Qu'est-ce qui vous incite? Comment la muse vous nourrit?
Je n'ai pas vraiment d'explication. Je suis pas en train de dire bon là je vais faire des poèmes. Non, c'est toujours spontané. Ces poèmes ont été écrits au fil des pages, mais j'avais des pages, j'ai écrit mon journal tout le temps. Donc, j'écrivais mon journal, puis tout, à un moment donné, tiens, j'avais envie de le faire sous forme poétique, d'exprimer finalement ce qui me venait sous forme poétique. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là. Par exemple, il y a un texte, Poésie de briques et de ciment. C'est un peu un jeu avec les mots, mais c'est aussi très vrai. C'est une période où je trouvais que la poésie n'était plus ce qu'elle était, qu'il n'y avait plus d'émotion, que c'était froid, sec, hermétique et tout ça. Alors, j'ai écrit ce poème-là, Tu mens, tu meurs, cérébral.
Et vous continuez toujours d'en lire de la poésie ou ça avait été une époque d'adolescence et après la vie vous avait amené à lire d'autres choses et à être dans la recherche ou si vous avez toujours eu des auteurs, la découverte de nouveaux auteurs, de nouveaux poètes?
Oui, j'ai continué à lire de la poésie, peut-être moins qu'à l'époque de la grande adolescence, mais j'ai toujours continué chez Pierre Morency, par exemple. À l'époque, c'était Gatien Lapointe, tout ça. Et Gaston Miron, bien sûr, et maintenant, on le met en chanson, et tout ça, c'est formidable. Et j'ai aussi, je cite d'ailleurs Julie Stanton.
Oui.
Qui est une poète aussi, qui a une poésie que je trouve simple et très intéressante. Alors, j'ai lu son dernier recueil et c'est, comment dirais-je, maintenant, il y a le rap, il y a le slam. Tout ça, ce sont des moyens d'expression qui m'intéressent toujours.
Que vous trouvez que c'est heureux d'avoir...
Oui, parce qu'ils s'expriment à travers ces modes-là. Mm-hmm.
Vous avez regroupé un certain nombre de poèmes sous un chapitre que j'appellerais là, l'écriture.
Oui.
Donc, la poésie qui réfléchit sur elle-même, d'une certaine façon, sur l'art d'écrire. Et là, encore une fois, le style change. Ces poèmes-là, pour un certain nombre, ont beaucoup plus d'ampleur, sont beaucoup plus de souffle que les poèmes des parties précédentes.
C'est ça, ils sont plus longs et sont...
Parce que vous aviez besoin d'expliquer plus?
Pas vraiment, mais je me suis donnée, après la naissance de mes enfants, tout ça, j'avais envie de retrouver davantage l'écriture. Bon, parce que quand on a des jeunes enfants, tout ça, on a moins le temps. Donc, j'avais envie de retrouver ce mode d'expression et de le développer. J'ai pris des ateliers d'écriture avec Esther Croft, que vous connaissez peut-être, écrivaine
de
Québec.
J'ai pris des ateliers d'écriture avec Esther Croft.
Avec aussi. Alors, j'en ai suivi. Et évidemment, ce moyen d'expression poétique est revenu dans ces ateliers. Et il y en a plusieurs là-dedans, dans l'écriture, qui proviennent
au départ dans les ateliers,
mm-hmm. Oui, dans les ateliers.
Il y en a un très beau qui j'ai dit que vous aviez pris de l'ampleur dans cette partie-là. Alors,
oui.
Je le lirai pas au complet parce qu'il est assez long et il s'intitule « J'ai vu ».
Oui.
Et on arrive à un moment donné, « Mon âme de Sisyphe s'essouffler, se ramasser et se tendre vers l'avenir, j'ai vu ta pensée m'embrasser, l'impossible me donner la main, j'ai vu la mort se retirer pour un mot d'amour. » J'ai vu la nuit s'entêter à rester les étoiles ouvertes jusqu'au matin bleu. J'ai vu vos bouches d'enfants nourrir mon corps affamé. J'ai vu vos mains glisser sur ma peau et me redonner mon âme. J'ai vu vos vies bouger le long de mes os. J'ai vu vos vies me rendre la mienne, me la voler puis me la redonner. J'ai vu ma maison sous les pins, au joli bois de l'enfance, et vos mains douces se frayer un chemin jusqu'à mon âge. C'est très beau.
Merci.
Et il y a comme une sorte de, j'ai gardé la partie où il y a comme un renversement, c'est-à-dire que la mère qui donne la vie, qui fait grandir et qui caresse et autres, ce sont les enfants qui le...
Ensuite,
ce sont les enfants qui le font ici.
Qui redonnent la vie.
Qui redonnent la vie.
Oui. Effectivement, c'est comme je vous disais tantôt, quand on a des enfants, on est très pris par tout ça et on délaisse un peu ce qui était notre vie avant. Mais... on se rend compte que les enfants nous redonnent cette vie au centuple, finalement, après.
Oui, mais par ce poème-là, on a comme l'impression que le vieillissement avait échappé un peu à la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont redonné la vie qui s'était perdue.
Oui, par toutes les occupations à gauche et à droite dans lesquelles on se laisse entraîner.
Voilà. La distraction de la vie.
Voilà. Et par ce lien-là avec les enfants, quand on voit les enfants au jour le jour qui se développent, qui grandissent et qui nous apportent tellement, parce que les enfants, c'est la vie, oui, c'est la vie nouvelle, c'est des yeux neufs, les enfants. Et alors, on regarde par leurs yeux et ça nous est redonné toute cette vie-là.
Mmh. La petite fille, au fond de son rang de campagne, la plus jeune de famille, pas d'amis, elle s'est ennuyée beaucoup le dimanche.
Beaucoup, oui, oui. Oui, c'est vrai.
Vous y avez consacré un poème d'époque ou d'après?
D'après. Encore, d'après. Le recueil est chronologique, grosso modo, là, à peu
Donc,
près.
Donc, Les pauvres dimanches, c'est écrit à l'âge adulte.
Oui, oui. Et proviennent, celui-là, entre autres, et quelques-uns là, dans les derniers poèmes, proviennent de, comme j'avais fait des ateliers avec Esther Croft, mon fils, qui était au cégep à l'époque, me dit un jour, « Oh, il faut que j'écrive des poèmes. » Alors, il était un peu désemparé. Et je lui ai dit, « Mais c'est formidable. »
C'est le cours de français qui lui demandait ça.
J'ai dit, « C'est formidable, on va faire un atelier tous les deux. » Et alors, on a fait un atelier d'écriture et j'ai écrit en même temps que lui. Et il y a des poèmes qui se retrouvent là-dedans, dans cet atelier que j'ai fait avec mon fils.
A-t-il continué d'en écrire?
Non. Mais au long de cet atelier, au début, je voyais bien que c'était très pénible pour lui, mais au fur et à mesure, il s'exprimait et il comprenait la dynamique de la poésie. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un des beaux moments d'avoir vécu cet atelier avec mm-hmm. lui.
La toute première strophe de « Les pauvres dimanches » et « Les pauvres dimanches de mon enfance font des bruits pesants ». Des bruits de pas lourds, de la table au lit, des bruits de chaises berçantes, d'ennui, des bruits secrets de pages lues, des bruits de souffle léger, de sommeil annihilateur, des bruits de vent puissant à la saison des recommencements, à la saison des ruisseaux d'avril, des bruits de rire parfois lorsque la porte laisse entrer le monde, des bruits de vie qui s'éteignent avec la porte refermée sur les pauvres dimanches de mon enfance. Qu'il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître, que des gens doivent se reconnaître dans, ouais. dans des propos pareils. Pudeur à la publication,
oui,
Louise Goupil?
Oui, j'ai eu, avant là, de le faire, j'ai eu beaucoup d'état d'âme, disons. J'ai presque regretté, je voulais en imprimer seulement quelques-uns. Et puis finalement, je me suis dit, aussi parce que j'ai une amie à qui j'avais fait lire et qui me disait, ben oui, avec les photos et tout ça, c'est très beau. Donc, à partir du moment où je l'ai fait, c'était impossible de revenir en arrière. J'ai engagé une graphiste d'ailleurs pour le livre et je ne regrette pas parce que...
En fait, ce n'est pas un petit recueil de poésie, c'est un petit album d'art.
Oui.
Il y a à
oui.
la fois photos, il y a à la fois des textes.
C'est ça.
Et c'est très, très bien conçu, c'est très bien fait, c'est très oui. joli. Et Louise Goupil, Coquillage, Poésie de mes âges, c'est publié aux éditions Giplou ou Jipelou.
Jipelou pour Jean-Pierre et Louise. Parce qu'avec mon conjoint.
C'est une maison d'édition familiale.
C'est notre maison d'édition, oui. Elle a été créée en 2009. Mon conjoint a publié un premier volet de son autobiographie, à tirage très limité. Et nous avons enregistré à ce moment-là la maison d'édition. Alors, donc, on a continué.
Elle risque de donner d'autres petits.
Elle risque de donner d'autres petits. Maintenant, nous avons un site web où les gens peuvent aller avoir toutes les informations, les coordonnées, éditionjipelou.com.
Merci beaucoup, Louise Goupil.
Merci beaucoup.